de la paix. Il est 7 heures. Le bulletin de 7 heures. Mel Emmanuel.
Il est 7h à Boribana dans la commune d'Atécoubé, ici à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Merci d'écouter Radio de la Paix. La ville de Boaké en attraction à l'occasion du forum économique et touristique dénommé Invest in Boaké, c'est jeudi 25 et vendredi 26 janvier 2024, une initiative de la mairie de la ville. Dans la région du Tonkpi, la fuite des produits agricoles vers les pays voisins de la Côte d'Ivoire constitue un point crucial d'échange entre le corps préfectoral et les populations. Hors de la Côte d'Ivoire au Mali, l'accord d'Alger rompu avec effet immédiat par la junte au pouvoir. Nous reviendrons en Côte d'Ivoire pour la revue des titres des journaux de ce jour avec Jean-Mélène Bitti. Et enfin, Ernest Eckard, chef de l'unité politique macroéconomique et emploi à l'OIT, est l'invité de la rédaction. Il sera en entretien avec Jean-Claude Comé sur la situation de l'emploi dans le monde, particulièrement en Afrique. C'est au centre de la Côte d'Ivoire, dans le Béké, que démarre ce bulletin. La ministre de l'Économie, du Plan et du Développement a procédé ce jeudi 25 janvier au lancement d'un forum économique et touristique dénommé Invest in Boaké. Initié par la mairie de Boaké, ce cadre d'échange qui va durer 2 jours permettra d'attirer les investisseurs nationaux et étrangers à s'intéresser à la région. Dans la région du Béké, pour Radio de la Paix, Joseph Assalé.
L'organisation du forum Invest in Boaké revêt une importance capitale, au dire du ministre Amadou Koné, maire de Boaké.
Investir à Boaké vise à créer des richesses par l'investissement, créer des emplois pour les jeunes par la création d'industries, encourager les activités génératrices de revenus et de développement de divers secteurs d'activité, redonner à Boaké son positionnement géostratégique passé qui lui a valu le classement de deuxième ville de Côte d'Ivoire et d'en faire la première ville attractive des villes secondaires de l'Union économique monétaire ouest-africaine.
Cette initiative épouse la vision du gouvernement ivoirien, affirme Kaban Nialé, la ministre de l'économie, du plan et du développement, représentant le vice-président de la République.
L'organisation de ce forum d'affaires constitue donc une modalité de mise en œuvre du 5e pilier de notre plan national de développement 2021-2025, pilier qui porte sur le développement régional équilibré, la préservation de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques.
Paul Kofi Kofi, le commissaire de l'UMOA, Union économique monétaire ouest-africaine, se félicite pour sa part de la tenue de ce forum. Propos soutenu par le général Daouda Niang, ambassadeur du Sénégal, se réjouit des bonnes relations d'affaires entre son pays et la Côte d'Ivoire. Le forum Invest in Boaké sera meublé entre autres de panels, de foires et de visites touristiques. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Toujours à Boaké, sur le même sujet, le lancement du forum économique et touristique Invest in Boaké a été un prétexte pour le maire d'annoncer les grands projets innovants et structurants pour sa ville. Selon lui, une usine d'assemblage de motos électriques et la reprise des activités de l'usine de textile verront le jour. Amadou Koné est au micro de Joseph Assalé, notre correspondant dans le Boaké.
En lançant le forum économique Investir à Boaké, mon équipe et moi avons conçu plusieurs projets afin de concrétiser notre vision d'un Boaké plus attractif, d'un Boaké plus prospère. Il s'agit plus précisément de projets innovants et porteurs de richesses. Dans l'agro-industrie, Boaké veut disposer de plantations intégrées avec plus de 600 hectares pour le maïs irrigué, 50 hectares pour le piment destiné à l'exportation, 2000 hectares pour l'ananas, à Béoumi notamment, et 6000 hectares pour le riz. Pour l'élevage, nous prévoyons l'installation d'une ferme avicole et des discussions sont en cours de 1,2 million de têtes. Un abattoir moderne de volailles, un ranch à bétail avec donc mon frère Sidi Touré. Dans le secteur industriel, nous souhaitons avec le soutien du gouvernement relancer l'industrie textile avec l'usine Gonfreville sur environ 60 hectares, fleuron historique de l'économie de la ville de Boaké. À cela s'ajoute la construction d'une plateforme logistique sur une superficie d'environ 1000 hectares. La réhabilitation du marché de gros qui est en cours grâce à la Chambre de commerce et le ministère de l'Industrie, la mise en place d'une chaîne de froid pour la conservation des aliments et la construction d'une usine de production de sacs à toile de joute. Le hub de la mobilité verte se traduira par la création d'une usine d'assemblage de motos électriques afin d'améliorer l'environnement et le cadre de vie.
À l'instant, le maire de Boaké, Amadou Koné. Du centre, nous partons à l'ouest du pays, dans le Tonkoui. Là-bas, les potentialités agricoles de la sous-préfecture de Daleu, dans le département de Danané, étaient au centre d'une tribune d'échange récemment entre le corps préfectoral et les populations. La fuite de ces produits agricoles vers les pays voisins de la Côte d'Ivoire inquiète plus d'un. Le préfet du département de Danané, Aoutou Nguessan Vincent, donne de la voix pour circonscrire le phénomène. Stéphane Adams.
Sous-préfecture de Daleu, en plein essor économique, le préfet du département de Danané, Aoutou Nguessan Vincent, a présenté ce tableau, non sans inviter les partenaires au développement, à l'amélioration des conditions de vie des populations dans cette partie du pays.
Nous avons une sous-préfecture qui est importante, qui est le grenier du département. C'est la sous-préfecture de Daleu. Cette sous-préfecture est inaccessible, au point que les produits vont ailleurs, les produits vont de l'autre côté. Et nous ne pouvons pas faire de reproches véritablement à nos parents, puisqu'ils ne peuvent pas venir avec ces produits chez nous. Je souhaite que 2024 soit une année spéciale pour Daleu, que la route de Daleu devienne enfin praticable et que nous puissions y aller et qu'eux aussi puissent venir vers nous pour livrer tous ces produits qui sont à leur disposition dont bénéficient les autres de l'autre côté. Je souhaite que toutes les structures qui peuvent nous aident à régler la question. Le président du conseil régional, nous lui sommes reconnaissants pour ce qui est fait. Nous comptons sur lui aussi pour faire encore davantage.
Un appel bien entendu par les populations à l'image du président d'une ONG œuvrant dans l'innovation en milieu rural. Gondo Yomi Gérard.
C'est la toute première fois que je participe à cette rencontre. C'est important pour nous parce que tout compte fait, nous sommes de la région. Nous devons aussi contribuer véritablement au développement de la commune et pourquoi pas au développement de la région du Tonkoui que nous aimons tant. Parce que la région du Tonkoui regorge beaucoup de potentialités et nous avons des hommes et des femmes capables de participer efficacement au développement de cette région-là.
Rappelons que cette rencontre a vu la présence de toutes les forces vives de la région. Stéphane Adams, Danané, Radio de la Paix.
Et on évolue dans ce bulletin avec une note de santé. La tuberculose demeure un problème majeur de santé publique en Côte d'Ivoire. En 2021, 20 729 nouveaux cas et rechutes de tuberculose, toutes formes, ont été notifiés, soit environ 77 cas pour 100 000 habitants. C'est dans ce cadre que Grand Bassam a abrité une restitution de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur la lutte contre la tuberculose et la validation du plan d'accélération de la Côte d'Ivoire 2024, le compte-rendu de Mata Touré.
Cet atelier est surtout un partage des conclusions de la seconde réunion de haut niveau de l'ONU sur la lutte contre la tuberculose qui s'est tenue le 22 septembre 2023 pour faire progresser la science, la finance et l'innovation et leurs avantages pour mettre fin de toute urgence à l'épidémie mondiale de tuberculose. Chabané Nicole est du PEFAR, le bureau de la sécurité sanitaire mondiale et de la diplomatie.
La question de la tuberculose est une question très cruciale pour le PEPFAR et pour le gouvernement américain. C'est pour ça que nous investissons des fonds considérables pour assurer que la prise en charge est appropriée, surtout qu'on arrive à une élimination de la tuberculose.
Kwaku Jacques, coordinateur du programme de lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire.
L'épidémie de la Covid a freiné l'élan de beaucoup de pays. Et donc en 2023, l'ONU a remobilisé encore la communauté internationale, donc accélérer les interventions. La restitution vise ce que nous avons pu obtenir en tant que pays comme résultat à l'issue de la première réunion de 2018 qui vont nous permettre d'élaborer un plan. Et donc, après sa validation, le plan sera mis en œuvre et nous allons l'évaluer d'ici 3 années.
Pour ce qui est du coût d'investissement de lutte contre la tuberculose pour 2024, il se chiffre à environ 12 milliards de francs CFA et ce sont près de 1600 personnes qui succombent de cette maladie chaque année dans le pays.
Actualité sur le continent, la junte au pouvoir au Mali a annoncé hier jeudi soir la fin avec effet immédiat de l'accord d'Alger signé en 2015 avec les groupes indépendantistes du nord du pays. La junte a invoqué le changement de posture de certains groupes signataires, mais aussi les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes, dont le pays est le chef de file de la médiation, indique un communiqué lu à la télévision d'État par le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement. L'accord était déjà considéré comme moribond depuis la reprise en 2023 des hostilités contre l'État central et l'armée malienne par les groupes indépendantistes à dominante Touareg du Nord, dans le sillage du retrait de la mission des Nations Unies, MINUSMA, poussée vers la sortie par la junte après 10 années de présence. Et en sport, football, Coupe d'Afrique des Nations, Hervé Renard ne viendra pas terminer la CAN à la tête des éléphants. Les fédérations françaises et ivoiriennes ne sont pas parvenues à un accord sur le prêt du sélectionneur français pour entraîner la Côte d'Ivoire. De son côté, Hervé Renard n'a pas caché sa déception de ne pas avoir pu aller faire une pige sur le banc de la Côte d'Ivoire pour finir la CAN 2024. Il a même déclaré à un média de la place qu'il aurait adoré entraîner à nouveau l'équipe de Côte d'Ivoire. Rappelons que le technicien français a remporté 2 Coupes d'Afrique des Nations avec la Zambie en 2012 et avec la Côte d'Ivoire en 2015, devenant ainsi le premier entraîneur à remporter 2 Coupes d'Afrique des Nations avec 2 sélections différentes. Du football, nous passons à la une des journaux de ce jour avec Jean-Mélène Bitti. C'est la revue des titres. Bonjour.
Bonjour Mel Emmanuel, bonjour à tous. La mission du président de l'Assemblée nationale à Bruxelles, l'avis du PDCI RDA, la sortie de Monseigneur Marcelin Yaokwadio, évêque de Daloa, la qualification des éléphants en 8e de finale, le bilan de la première phase de cette compétition et le décès de Issiaka Diaby font la une des journaux de ce vendredi 26 janvier 2024. En Côte d'Ivoire. Adama Bitogo au Parlement européen. À ce sujet, le journal L'Avenir écrit « Diplomatie parlementaire ». Adama Bitogo partage la vision de la Côte d'Ivoire au Parlement européen. Parlement européen à Bruxelles, la présidente Roberta échange avec Adama Bitogo, annonce l'intelligent d'Abidjan. Dans l'Inter et Soir Info, on peut lire « Diplomatie parlementaire à Bruxelles ». Les grands sujets abordés par Bitogo et la présidente du Parlement européen. On termine avec le sursaut qui affiche pour sa première mission officielle en Belgique l'offensive gagnante de Bitogo devant le Parlement européen. 2 jours après la passation de charge au PDCI, certains tabloïds ivoiriens s'intéressent à la vie de ce parti. Et à ce propos, le Nouveau Réveil écrit « Après la passation des charges, la grosse machine du PDCI RDA en marche pour 2025 ». Il est suivi par la Nouvelle Alliance qui met à sa une, après sa prise du pouvoir à la tête du PDCI, voici la première bataille qui attend Thiam. Après la passation de charge, voici le premier combat contre le RHDP, annonce de son côté le Bélier. La sortie du président de la Conférence des évêques de Côte d'Ivoire est aussi à la une de vos journaux de ce jour. Démocratie, malversation, cumul de postes, les vérités de Monseigneur Marcelin Kouadio barrent le temps à sa une. Le Bélier lui emboîte aussi le pas en écrivant démocratie, cumul de postes, malversation. Les catholiques dénoncent les targes du régime Ouattara. La qualification des éléphants en 8e de finale est toujours commentée par les journaux de ce jour. Concernant ce sujet, c'est l'héritage qui ouvre le bal en titrant CAN 2023. Côte d'Ivoire-Sénégal, lundi. Éléphants, battez-vous. Le jour plus lui revient sur ce qui s'est passé à l'hôtel des éléphants après la victoire du Maroc. Notre voix à son niveau lui annonce que Allaire est prêt. Sénégal-Côte d'Ivoire, Drogba croit aux éléphants, indique de son côté Super Sport. Le journal gouvernemental Fraternité Martin Luba à sa une. CAN 2023, Faye et Mers, on doit une revanche au peuple. Tout comme Fraternité Matin, on peut lire à la une de l'expression CAN 2023, après le miracle. Éléphant, l'heure du rachat a sonné. C'est aussi l'heure du bilan après la phase de poule et nos quotidiens de ce jour sont revenus sur cette information. Premièrement, l'Inter écrit CAN 2023 avant les 8e de finale, les grosses déceptions de la phase de groupe. Le premier tour de la compétition en chiffres, 36 matchs, 89 buts, 115 cartons jaunes, et 4 cartons rouges fait savoir le jour plus. Il est suivi par Supersport qui met en manchette. Bilan, premier tour, 89 buts en 36 matchs, la canne de tous les superlatifs. On termine cette revue des titres de ce jour par une note de tristesse avec le décès de Issiaka Diaby. Et sur ce sujet, l'expression met à sa une, décès de Issiaka Diaby, les victimes de guerre perdent leur porte-parole. Même son de cloche et le sursaut qui écrit « Issiaka Diaby, président du CVCI, est décédé au CHU de Hongrie ». Voici qui met un point final à cette revue des titres. Merci à vos bacs journaux et bonne lecture.
À l'instant, c'était la revue des titres des journaux ivoiriens de ce jour. Vous en aurez une autre dans le journal de 8h, toujours avec Jean-Mylène Bitti. Dernier virage de ce bulletin, l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous parlons de la situation de l'emploi dans le monde et spécifiquement en Afrique. À cet effet, un rapport de l'Organisation internationale du travail, OIT, note une croissance soutenue en 2024, mais persistent des inégalités sociales croissantes qui suscitent encore des inquiétudes. Pour en discuter, Ernest Eckard, chef de l'unité politique macroéconomique et emploi à l'OIT, est en entretien avec Jean-Claude Comé.
Monsieur Ernst Eckhardt, bonjour.
Bonjour.
L'OIT, l'Organisation internationale du travail, a produit un rapport pour s'intéresser à la situation de l'emploi dans le monde. Qu'est-ce qui explique la résilience du marché du travail malgré donc la détérioration des conditions économiques que vous avez notées dans le rapport?
Oui, alors effectivement, il y a un ralentissement économique à noter depuis 2002 qui va continuer aussi les prochains mois, mais qui ne s'est pas traduit immédiatement à un ralentissement de la croissance de l'emploi. Il faut bien voir que l'emploi suit toujours avec un certain retard la croissance économique et donc on va ressentir le ralentissement de la croissance économique seulement cette année et ce qui explique en grande partie pourquoi le chômage n'a pas vraiment augmenté depuis.
Mais dans ce rapport donc dénommé emploi et questions sociales dans le monde, le rapport en tout cas note un ralentissement de la croissance africaine en 2023. Qu'est-ce qui explique justement ces ralentissements économiques?
Effectivement, le continent africain a subi de plein fouet les différentes crises internationales, à savoir notamment la crise de l'énergie et plus particulièrement la crise des prix agricoles. Et ce qui fait que l'inflation a augmenté beaucoup plus en Afrique subsaharienne que dans d'autres régions du monde, ce qui se traduit directement à un ralentissement plus important de la croissance économique.
Alors donc, ce ralentissement, quelle est son incidence sur le milieu du travail, notamment en Afrique?
Alors, le ralentissement économique dans les pays africains se traduit principalement à une hausse de l'informalité et de la pauvreté au travail, beaucoup plus qu'une hausse du chômage qui lui reste plutôt limité.
Donc pour vous, il y a plus de travail informel, justement, vu sous l'angle de l'OIT. Quand nous parlons d'un travail informel, c'est quoi?
Alors effectivement, l'informalité reste toujours très élevée dans les pays subsahariens et ce qui implique notamment une forte pauvreté au travail. Il faut dire que l'informalité, c'est quoi? C'est principalement les travailleurs qui ne sont pas couverts par la protection sociale, qui ne sont pas couverts par un contrat de travail et qui sont souvent pas dans une situation d'emploi stable, donc avec une rémunération très variable et souvent des périodes de chômage intermittent. Donc ces travailleurs sont dans des situations précaires et les pays africains sont particulièrement touchés par ce problème.
Mmh. Alors, mais comment inverser cette tendance, Le rapport note en Afrique un pourcentage qui avoisine les 86% d'emplois informels. Comment inverser la tendance?
Alors, la chose la plus importante immédiatement, c'est effectivement de retrouver la croissance. Je pense que ça, c'est la première chose. Mmh. Après, la croissance en elle-même ne suffira pas. Il faut aussi que ça soit la croissance, notamment dans des secteurs qui créent beaucoup d'emplois, notamment dans les services et d'une certaine manière aussi dans l'industrie, beaucoup plus que par exemple dans les secteurs minières. Et donc ça va être un problème important à résoudre dans l'avenir, de créer cet ajustement, cette restructuration économique, si vous voulez, qui permet notamment aux personnes actuellement dans les secteurs précaires de retrouver un emploi plus stable avec une dynamique économique plus importante.
Alors, il faut légèrement améliorer la pauvreté des travailleurs. C'est en tout cas les indications de ce rapport. Pour vous, concrètement, comment y arriver
hein? Une des clés importantes pour résoudre la formalité et la précarité, c'est effectivement de mettre l'accent sur la protection sociale, de permettre justement un meilleur accès à des systèmes de sécurité de santé, de chômage, de retraite, etc., pour permettre justement aux gens de mieux être assurés contre les différents risques qui arrivent sur le marché du travail. La deuxième question, effectivement, c'est toujours une question de salaire minimum adapté aux conditions économiques sur place. Hein. Le problème numéro un des travailleurs informels, ils sont souvent sans revenus stables, avec des revenus extrêmement faibles. Donc, un salaire minimum permettrait à un plus grand nombre de personnes, justement, de bénéficier d'un salaire régulier et qui couvre les besoins nécessaires.
Une cible importante hein, qui vous intéresse à l'OIT, hein, c'est la jeunesse. Hein. Justement, quelle est la situation des jeunes hein, dans les politiques de création d'emplois notées dans le monde, notamment en Afrique, que le rapport élève?
Alors, effectivement, la situation des jeunes en Afrique est extrêmement préoccupante puisque ce n'est pas seulement ces jeunes-là qui sont touchés par le chômage, mais souvent par un détachement total du marché de travail. Et ça touche un pourcentage important de jeunes qui sont ni en travail, ni en éducation, ni en formation. C'est-à-dire qu'on ne leur propose pas du tout une possibilité d'insertion sur le marché de travail à long terme. Et donc, il faut absolument s'assurer que les jeunes au moins retrouvent une formation ou un accès à un centre d'éducation pour pouvoir améliorer leurs compétences, qui leur permettra par la suite d'intégrer le marché du travail.
Et puis 2024, hein, pour terminer, est annoncé hein, comme une année de rebond, donc au plan économique. Alors, quelles retombées possibles hein, sur le milieu du travail?
Alors effectivement, à partir du moment que la croissance commence à redémarrer, le ralentissement qu'on a observé jusqu'à présent va s'arrêter et le marché du travail va retrouver un peu ses couleurs, hein, créer de plus d'emplois et plus d'emplois justement pour les jeunes.
Monsieur Ernst Eckhard, je vous remercie.
Merci à vous.
C'était Ernst Eckhard, chef de l'unité politique macroéconomique et emploi à l'OIT. Il répondait aux questions de Jean-Claude Coumé sur le rapport dénommé « Emploi et questions sociales dans le monde, tendance 2024 » produit par l'OIT. Sur ce, le rappel des titres de ce bulletin. La ville de Boaké en attraction à l'occasion du forum économique et touristique dénommé Invest in Boaké, c'est jeudi 25 et vendredi 26 janvier 2024, une initiative de la mairie de la ville. Dans la région du Tampi, la fuite des produits agricoles vers les pays voisins de la Côte d'Ivoire constitue un point crucial d'échange entre le corps préfectoral et les populations. Et puis hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, l'accord d'Alger rompu avec effet immédiat par la junte au pouvoir hier jeudi dans la soirée. Merci d'être resté sur Radio de la Paix. Je vous retrouve à 8h. D'ici là, voici pour vous au cœur de la Cannes.